nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Le prix Louis Powels, créé en 1997, est attribué chaque année à un écrivain francophone, auteur d'un essai qui manifeste un esprit d'ouverture dans le débat d'idées, faisant place à la morale, l'esthétique, la philosophie, la science, la spiritualité, aux questions de société, dans le monde contemporain ou dans l'histoire. Ce prix nous permet d'évoquer la mémoire du romancier, poète et journaliste Louis Powels, fondateur du Figaro Magazine, élu à l'Académie des Beaux-Arts en 1985 dans la section des membres libres. Depuis 2007, suite à la donation de Mme Elina Powels, ce prix est remis dorénavant par la Société des gens de lettres dans les salons de l'Hôtel de Massa à Paris 14e. Cette année 2012, l'astrophysicien Trinh San Thuan reçoit le prix Louis Powels pour son ouvrage paru chez Albin Michel « Le cosmos et le lotus », essai entre eux, réflexion personnelle, partage et communication scientifique auprès d'un très large public. Soulignons que le 14 mai 2012, ce même scientifique a aussi été récompensé par le prestigieux prix mondial Simone et Sino del Duca, décerné par l'Institut de France, prix littéraire le mieux doté au monde après le prix Nobel. Au cours de cette cérémonie de remise de prix que Canal Académie vous invite à écouter intégralement, après les mots d'accueil et de bienvenue que vous entendrez prononcés par l'actuel président de la Société des gens de lettres Jean-Claude Bologne, le célèbre comédien Jean Pia, membre du jury, vous donnera lecture d'un texte savoureux rédigé par Louis Powels en 1978 dans « L'apprentissage de la sérénité ». Louis Powels consacrait un chapitre à la lecture et à la liberté, et vous en entendrez un extrait. Et après cette lecture de Jean Pia, c'est Jean Miot, président du jury, qui remettra le prix à Trinh San Thuan, qui lui-même prendra la parole pour remercier le jury et répondre au discours de Jean Miot. En vous souhaitant une belle écoute, je vous laisse en compagnie du président de la Société des gens de lettres, Jean-Claude Bologne.
Bonjour et bienvenue dans cet hôtel de Massa qui est depuis 1929 le siège de la Société des gens de lettres. Nous sommes réunis aujourd'hui, comme vous le savez, pour la remise du prix Louis Powels, qui est associé à la Société des gens de lettres depuis 6 ans. C'est la première année où Elina Powels, qui a fondé ce prix pour des raisons de santé, ne peut être parmi nous. Toutes nos pensées vont bien entendu à elle. J'espère que la poésie qui va se dégager de cette remise parviendra jusqu'à elle. Je dis poésie puisque vous savez, vous ne savez pas encore, mais qu'en 1976, une chaire d'astrophysique pour les poètes s'est ouverte à Charlotteville. Et c'est aussi pour cela que nous sommes heureux d'être là aujourd'hui et que la poésie sera au rendez-vous, je n'en dirai pas plus. Je vais laisser à Jean Miot, le président du jury, le soin de vous en dire davantage. Je remercie les membres du jury Powels qui nous ont fait le plaisir d'être là aujourd'hui, et le plaisir et le devoir d'être là aujourd'hui. Nous allons commencer cette réception en entendant la voix de Louis Powels, tout simplement, la voix de Louis Powels par l'intermédiaire de quelqu'un qu'il n'est plus besoin de présenter, Jean Pia, membre du jury, l'acteur que l'on connaît et qui va nous dire quelques pages de Louis Powels en avant-goût.
Comptons, dit-il, en gros, 5 sortes de lectures. Et d'abord la presse, lecture dite d'information. Nous en dirons 2 mots parce que pour beaucoup de nos contemporains, elle constitue la seule lecture, ou presque. Si j'écris lecture dite d'information, c'est que l'information ne s'y trouve pas. Où se trouve l'information? Chez ceux qui savent. Une poignée. Or, ceux qui savent ne parlent pas, ou très peu, ou entre eux. Faites-vous une raison. Sur quoi d'essentiel repose donc la presse? Sur une chose, sur l'art et la manière de former des opinions. La presse est une arme politique. Le monde étant comme toujours en guerre, la plus grande part de notre existence se passe sous les armes. Les armes en papier font partie du matériel moderne. Un homme qui ne lit jamais que des journaux et des magazines, ayant reçu autant de plomb dans la tête, mérite tout à fait sa condition de mort vivant. Je ne crois qu'aux hommes qui éprouvent la profonde nécessité durant quelques jours, quelques semaines ou quelques mois de n'être pas sous presse, de se tenir à l'écart de l'actualité. Et je le dis avec d'autant plus de conviction que la presse est l'un de mes métiers et qui me passionne. Voyons maintenant les autres formes de lecture. 1. La lecture de distraction, évasion en tout genre. 2. La lecture d'acquisition, le savoir. 3. La lecture de ravissement, les grandes œuvres littéraires. 4. La lecture d'élévation, philosophie, sagesse, spiritualité. Il arrive que les quatre formes se mêlent dans les grands chefs-d'œuvre, cependant on ne lit pas que les grands chefs-d'œuvre. Première règle, une lecture multiforme. Vous avez besoin de distraction, vous avez besoin de savoir, vous avez besoin d'art, vous avez besoin d'âme. Toujours quatre livres au moins sous la main. Comme on varie la nourriture dans le même repas, variez la lecture. Allez d'un genre à l'autre selon l'humeur, l'incitation, l'appétit, sans hiérarchie ni complexe. Deuxième règle, pas de respect pour le livre. Ceci est capital. Ni respect de l'objet, ni timidité dans son usage. Faites des marques, soulignez, écrivez dans les marges. Un livre n'est pas un cadavre dans une chasse, c'est un être. Dialoguez. Second non-respect nécessaire, la lecture du commencement à la fin d'un livre n'est ni une obligation, ni le témoignage dont ne sait quel mérite. Décortiquez, prenez ce qui vous convient, tenez le livre pour un crabe. Rien n'interdit de commencer par l'intérieur, une pince ou une patte. Troisième règle, quotidiennement un peu de lecture d'élévation. Sur ma table de chevet cette semaine, un policier, la distraction, un ouvrage d'astronomie contemporaine, le savoir, un Tchekhov, le ravissement, l'enseignement de Ramakrishna, l'élévation. Je vais de l'un à l'autre dans la journée, mais de toute façon, je finis chaque soir par un peu de Ramakrishna. Pas un jour sans lecture, mais pas un jour sans un brin d'élévation. Vous me direz, c'est bel et bon, mais pas d'argent et pas de temps. Vous mentez. Vous mentez sur l'argent. À l'époque des livres de poche, avouez-le, en acheter un n'épuiserait pas votre argent de poche. Vous mentez sur le temps. Vous pouvez, sauf cas extrême, consacrer une heure par jour, même fractionnée, à la lecture. Vous ne le faites pas, c'est que vous n'en avez pas le désir ou pas la volonté. Ayez ce désir, ayez le désir de ce désir, ayez la volonté de cette volonté. Mes chers amis, les bons comptes faisant les bons amis, comptons. Vous disposez de 2 journées pleines par semaine, durant 48 semaines, soit 96 jours. De 30 jours minimum de vacances, en outre, plus de 15 journées sont chômées dans l'an. Addition, 141 jours au bas mot, soit la valeur diffuse de 4 mois et demi. C'est le record du monde. Enfin, un homme me dit, je lirai volontiers, mais la télévision. Eh bien, regardez la télévision, mais rarement. Faites un choix strict. Tout ce qui ne vous enrichit pas vous appauvrit. Qui vous force à demeurer collé? Votre faiblesse, uniquement votre faiblesse. Ben non, ma femme aussi. Ma femme préfère que je regarde avec elle. Elle insiste, que je m'isole, la vexe, la chagrine. Nous nous voyons déjà si peu, dit-elle. Les soins que vous devez à votre esprit, pour ne pas dire à votre âme, ne sont donc pas pour elle l'essentiel? La lecture est un chemin vers la possession de soi. Votre possession de vous-même n'est donc pas pour elle l'essentiel? Ben non, j'imagine. Elle s'en moque, pour ainsi dire. Et vous acceptez, qui puis-je? C'est ma femme, nous nous aimons. Mon cher monsieur, divorcé. Une femme qui tient pour rien à la vie intérieure de son mari est une parfaite étrangère et un vampire. Powells ajoute, je tenais ces propos à un homme. Mais quantité d'hommes sont également pour leur épouse des empêcheurs d'être, de parfaits étrangers et des vampires, et reconnaissons que plus de femmes que de mâles pourraient donner l'occasion d'un tel dialogue. Reconnaissons aussi que mon conseil est exagéré. Or, on sait que les conseils ne sont pas faits pour être suivis. À plus forte raison, les conseils exagérés. Celui-ci n'aura donc pas de conséquences fatales, tant mieux, du moins aura-t-il réveillé quelque chose et dégagé une vérité vivante, du silence mortel des couples. En résumé et pour conclure, disons que si vous partagez tout avec un être, vous risquez de vous diminuer de moitié. Voilà. Homme ou femme, bien sûr.
Merci, cher Jean-Pierre. Je crois pouvoir vous dire d'emblée que l'auteur que nous allons couronner relève des quatre formes de lecture à la fois que Louis Powell s'évoquait. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord, comme le disait tout à l'heure le Président, excuser Elina, qui est bien entendu de tout cœur près de nous. Je lui ai promis d'ailleurs tout à l'heure de l'appeler pour qu'elle puisse vous complimenter en direct. Comme à l'accoutumée, nous avons travaillé avec ferveur, j'oserais même dire avec sérieux, pour désigner le lauréat de ce 14e prix, Louis Powells. Merci à la Société des gens de lettres de nous accompagner fidèlement. Merci, Monsieur le Président. Merci, chère Christina Campodonico, si élégante et si dévouée cheville ouvrière de cet événement. Sur les 14 ouvrages présélectionnés, nous avons d'abord fait un premier tri. Notre critère fondamental, vous le savez, c'est Louis Powells. Qu'aurait-il pensé de ce livre ? Au deuxième tour, il nous en restait 7. Il nous a bien fallu choisir, même si choisir, c'est forcément se priver. 3 titres nous avaient séduits. Requiem pour les Français, de Jean Botorel, édité chez François Bourin. Un livre prémonitoire, compte tenu de la récente actualité électorale. Historiquement incorrect, de Jean Sevilla, édité chez Fayard. Un remarquable ouvrage qui remet singulièrement les pendules historiques à l'heure. Et le troisième tour de scrutin nous a tous irrémédiablement entraînés dans ce cosmos que nous explique si clairement M. Trinh Xuân Thuan, qui nous honore aujourd'hui de sa présence. Vous devez vous jeter sans tarder dans le cosmos et le lotus, édité chez Albin Michel. Vous verrez, cet homme-là a les yeux dans les étoiles, mais sa vision intergalactique embrasse tout à la fois l'humain et la science. Son livre a une vertu cardinale. Après l'avoir lu, on a le sentiment d'être devenu intelligent. Mais bien plus encore, il nous transmet cette notion du bouddhisme que l'on appelle le Ren, l'amour de l'homme, la plénitude de l'humanité. C'est un livre qui pacifie, comme la musique de Jean-Sébastien Bach. Nourri de 3 cultures, imprégné de confucianisme, Trinh Xuân Thuan appartient à la dernière génération d'intellectuels vietnamiens formés à la française, et sa formation scientifique a été acquise au plus haut niveau américain. Né à Hanoï, l'adolescence de l'auteur se passe à Saïgon, entre deux guerres. Il a la passion de la lecture et dévore à la bibliothèque du Centre culturel français les Dumas, les Hugo, les Jules Verne, Saint-Exupéry. « C'est dans la langue de Molière que je me sens le plus à l'aise », avoue-t-il. Plus qu'à l'aise, le cosmos et le lotus est une leçon d'écriture, permettez-moi de vous le dire. Je crois savoir que vous caressez le projet de vous installer à Paris quand vous n'enseignerez plus pour consacrer votre temps à l'écriture. J'ai été vietnamien et américain, devenir français bouclera la boucle, dites-vous. Venez vite. Nous sommes pressés de vous accueillir et de vous relire. Car vous éprouvez en effet le besoin de vulgariser la science, d'écrire non seulement pour une poignée d'experts, mais pour changer la vision du monde des lecteurs non initiés que nous sommes. Vous êtes, monsieur, un merveilleux passeur de connaissances. Mais revenons à Saïgon. Votre livre de chevet s'intitule « Comment je vois le monde ?» signé Albert Einstein. Vous êtes fasciné par l'inventeur de la relativité. Votre voie est tracée. Vous serez physicien. Formé dans un lycée français, vous vous apprêtez à venir étudier en France. C'est le général de Gaulle lui-même qui va contrarier ce destin. Son célèbre discours de Phnom Penh, en 66, provoque la rupture des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France. Vous voici donc condamné à la Suisse, condamné entre guillemets, et vous découvrez en Suisse un sentiment qui vous était jusqu'alors étranger, la sécurité. En toute logique, vos études se poursuivent aux États-Unis. Trois universités vous ont offert une bourse. C'est à la Mecque de la science mondiale, le California Institute of Technology, doté de télescopes exceptionnels, sous un ciel dégagé, que Trinson Twan va commencer de s'enivrer d'exploration de contrées vierges où nul ne s'est encore aventuré. Son directeur de thèse n'est autre que Lyman Spitzer, l'inventeur du télescope spatial Hubble. Et après un doctorat en astrologie, il ne résiste pas à l'appel du ciel. Ce sera la cosmologie. Je voulais frissonner à la pensée que les particules de lumière du ciel qui parvenaient jusqu'à mon télescope avaient commencé leur voyage intergalactique des milliards d'années auparavant, alors que les atomes constituant mon corps n'avaient pas encore été fabriqués par l'alchimie nucléaire d'une étoile, écrit-il. La cosmologie repose sur la théorie du Big Bang. Pour notre lauréat, celle-ci est irréfutable, basique. Le voici donc plongé dans l'évaluation des galaxies elliptiques géantes, dans l'étude des bébés naines bleus, compacts, dans le cannibalisme galactique. Je le confesse, j'ai pas tout compris, mais je suis sorti de ce livre farcidé, fasciné surtout quand j'ai appris que ce que nous voyons briller les soirs d'été, les quelques 100 milliards de galaxies de l'univers observables, chacune contenant 100 milliards de soleils, ne représente que 0,5% du contenu total de l'univers. Nous n'avons donc encore aucune idée de ce qui reste. Et Trinson Twan de citer le petit prince de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux. À la rentrée de septembre 1976, Trinson Twan choisit d'aller enseigner à l'université de Virginie, dont le fondateur est Thomas Jefferson, un héros intellectuel américain qui lui est cher. Il enseigne à des littéraires. Son cours est intitulé « L'astronomie pour les poètes ». On rêve d'être encore étudiant. Dans le cosmos et le lotus, il nous apprend la beauté de la science. C'est parce que le monde m'émerveille que je fais de la science. La nature est belle parce qu'elle est régie par des lois, écrit-il. La spiritualité est une autre approche de la science. L'auteur nous rappelle utilement que les Grecs, qui n'ont pas que des défauts, quoi qu'on en pense aujourd'hui, eurent une pensée révolutionnaire. Les événements naturels ne relèvent pas seulement des dieux. Et le plus fort, c'est que l'homme est capable de penser le tout, que la pensée humaine peut tout appréhender. Atteindrons-nous jamais la vérité ultime ? Il ne le croit pas. Mais cette recherche illuminera et magnifiera toujours notre existence. Le savoir ne tue ni la poésie, ni la mystique, encore moins la beauté. Mais la science n'arrivera jamais à dissiper tous les mystères, parce que derrière chaque réponse se cachent d'innombrables questions nouvelles. La science ne suffit pas non plus pour nous rendre heureux. Trinson Twan nous raconte sa rencontre avec le moine bouddhiste, Mathieu Ricard, le fils de l'académicien, philosophe, et notre confrère Jean-François Revel, l'auteur, souvenez-vous, de « Plaidoyer pour le bonheur ». Et il a publié, je crois, récemment, « La psychologie », un livre tout à fait passionnant également. Et Trinson Twan nous explique les rapports évidents entre la vision bouddhiste du réel avec la vision scientifique. La science, comme le bouddhisme, représente la recherche de la vérité. Voilà le cosmos et le lotus, harmonieuse complémentarité. Car le bouddhisme n'est pas figé dans des dogmes, il explique aussi bien le ciel que la science. Il y a véritablement convergence, résonance entre les deux, entre ces deux visions. Le concept d'interdépendance est bien le lien entre les deux. Tout est interconnecté. L'interdépendance du monde des particules et de l'univers a été démontrée par la physique moderne. Si j'ai bien compris, ce qui reste à vérifier, les atomes d'hydrogène dans l'eau des océans, comme dans notre corps, proviennent à 98% de l'explosion du Big Bang. Cette soupe primordiale, comme ils l'appellent, a 13,7 milliards d'années, l'âge de l'univers. Les éléments constituant la complexité de la vie, soit 2% seulement, sont le fruit des morts explosives d'étoiles. Nous ne sommes donc simplement que des poussières d'étoiles, tous liés les uns aux autres génétiquement. Ce livre magnifique nous fait comprendre, au sens étymologique du terme, ce merveilleux ballet cosmique dans lequel nous vivons, cette interdépendance, impermanence, interconnexion, ce changement perpétuel, telle la ronde éblouissante des galaxies. Les étoiles sont comme nous, elles naissent, elles vivent, elles meurent. Vous voyez, la cosmologie ne peut pas désenchanter le monde. Entre le hasard et la nécessité, Trinh Xuân Thuan a choisi la nécessité, parce qu'on ne peut pas imaginer que cette merveilleuse organisation du cosmos que nous observons n'ait aucun sens. Il fait en quelque sorte le pari de Pascal, mais façon Spinoza ou Einstein. Son Dieu n'est pas barbu. Il défend le principe panthéiste qui se manifeste dans les lois de la nature. Pour lui, la science n'est pas la seule fenêtre qui permette d'accéder au réel. Le lotus, la spiritualité, est aussi le moyen d'approcher la réalité ultime du cosmos. Cher monsieur Trinh Xuân Thuan, ce trop long discours n'avait d'autre objectif que de donner à nos hôtes l'irrésistible envie de lire votre livre. Et à ce stade de la péroraison, il faut une citation. C'est vous qui me l'avez offerte, avec ce poète anglais visionnaire qu'est William Blake, que vous citez dans votre ouvrage. Écoutez-le bien, c'est en 4 vers le résumé des 250 pages d'un très grand livre. Voir un univers dans un grain de sable et un paradis dans une fleur sauvage. Tenir l'infini dans la paume de sa main et l'éternité dans une heure. Tout est dit. Je vous remercie.
Monsieur le Président, Monsieur Pia, honoré membre du jury et amis et invités, je suis très honoré aujourd'hui donc de recevoir le prix Louis Paus pour le cosmos et le lotus. Monsieur Niu a eu la gentillesse d'en dire longuement le contenu et avec, moi je dirais, avec beaucoup de justesse, même, vous savez, les concepts scientifiques sur le Big Bang et la matière noire dont il parlait tout à l'heure. Les 100 milliards de galaxies de l'univers observable, chacune contenant les 100 milliards de soleils, en fait, ne reflètent que 0,5% du contenu de l'univers, en fait. Et puis, il y a 4% de plus qui est formé de protons et de neutrons, formés dans les 3 premières minutes de l'univers. Et puis, il y a ce qu'on appelle une masse noire, donc il n'émet aucune lumière. Et puis, donc ça, c'est 26%. Et puis, 70% d'une, ce qu'on appelle une énergie noire qui fait que l'univers qui est en expansion maintenant, vous savez, à cause du Big Bang, cette déflagration primordiale qui a fait naître l'univers il y a 7 milliards d'années, comme monsieur le président l'a très justement dit. Et puis, bon, maintenant, on voit toutes les galaxies s'éloigner de vous. Et puis, mais on pensait que cette explosion allait décélérer à cause de la gravité qui nous tient sur Terre, qui est attractive. Mais en fait, elle est maintenant en accélération à 70%. C'est ce qu'on appelle l'énergie noire. Donc, c'est vraiment, nous connaissons tellement peu l'univers, et c'est ça qui fait la merveille de la science, parce que si on savait tout, l'univers serait très, très ennuyeux, je trouve. Donc, c'est ça le processus de la science. Il y a des milliers de questions, on résout une, mais comme une hydre à 1000 têtes, 1000 autres surgissent. Donc, en fait, le but recule toujours pour un scientifique qui avance, le but semble toujours reculer. Mais c'est ça qui fait l'intérêt de la science, je pense. Donc, Monsieur Miu a non seulement mentionné, bien sûr, mon côté scientifique, une grande partie de ma vie, donc le cosmos dans le titre, mais aussi, donc, l'autre grande partie, c'est bien sûr la spiritualité. Et il a bien décrit, donc, la tradition confucéenne et bouddhiste dans laquelle j'ai grandi et qui a inspiré, il m'a guidé donc tout au long de ma vie. Et donc d'abord, il a bien mentionné le renne, donc le désir L'amour de l'humanité que le confucianisme donne et qui m'a guidé dès le début et qui fait que je me sens enfin, investi d'une mission, entre guillemets, donc, d'augmenter le savoir d'abord. Donc, c'est ma carrière de chercheur, vous savez, d'astrophysique. En fait, moi, je m'appelle recueilleur de lumière. En fait, un astronome n'est que quelqu'un qui recueille la lumière du cosmos, parce que le seul lien entre nous et l'univers, c'est la lumière. Et l'astronome va à ses grands télescopes pour recueillir cette lumière cosmique. Et cette lumière cosmique, en fait, contient un code cosmique. C'est ça qui est extraordinaire. C'est en déchiffrant ce code que l'astronome réussit à reconstituer cette histoire cosmique de 13,7 milliards d'années dont M. Mio a parlé tout à l'heure. Une histoire qui débouche sur nous, donc à partir du Big Bang. Donc nous ne pouvons pas regarder jusqu'en arrière, mais jusqu'au Big Bang lui-même, mais pour l'instant, mais on peut regarder de plus en plus loin dans le temps. Parce que la lumière met du temps pour nous parvenir. Sa propagation n'est pas instantanée. C'est la plus grande vitesse possible dans l'univers, 300 000 km par seconde tic, et la lumière a fait déjà 7 fois le tour de la Terre. Mais à l'échelle de l'univers, c'est toujours une vitesse de tortue. On regarde toujours l'univers avec un peu de retard. Donc la Lune, par exemple, la lumière de la Lune est à 384 000 km. Et puisque la vitesse de la lumière est 300 000 km, la lumière de la Lune met un peu plus d'une seconde pour nous parvenir. Le Soleil, c'est 8 minutes plus tard. La plus proche étoile, c'est 4 années plus tard. La plus proche galaxie, qui est Andromède, c'est 2 300 000 années plus tard. Et ainsi de suite, vous voyez. Donc c'est comme ça qu'en regardant avec des télescopes de plus en plus grands, nous regardons de plus en plus faibles, et donc nous regardons de plus en plus loin, et donc nous nous regardons de plus en plus dans le passé. Les télescopes sont des machines à remonter le temps, et c'est comme ça que l'astronome donc, reconstruit l'histoire cosmique qui débouche sur nous. Donc ça, c'est mon activité scientifique, recueilleur de lumière. Mais j'ai toujours pensé aussi que, de par ma tradition confucienne, donc chercher, puis transmettre ce savoir. Donc c'est ce que j'ai fait en devenant professeur d'université. Donc transmission de ce que je sais, ce que je cherche à des étudiants, de passer le flambeau en quelque sorte à des générations plus jeunes. Mais à partir donc, de 1988, quand j'ai pour la première fois donc, écrit un ouvrage pour le grand public, qui s'appelle la mélodie secrète, donc la mélodie de l'univers. Je trouvais que bien, l'enseignement dans l'université à des jeunes esprits, c'est très bien, mais quand même, ça touche un public très restreint. Donc ce désir aussi, vous savez, de transmettre ce savoir encore à un plus large public, d'essayer d'écrire en des termes qui ne sont pas rébarbatifs, donc cette merveilleuse épopée qui débouche sur nous. Donc quand j'écris, bien sûr, d'abord, Monsieur Mio l'a bien souligné, je l'écris en français, parce que c'est une langue, une culture et une histoire que j'aime profondément, qui m'est restée donc, de mes jours au lycée français de Saigon. Et en fait, j'ai grandi avec les philosophes. Pascal était un de mes philosophes préférés, donc avec des philosophes français, avec des grands auteurs français, Dumas, Hugo, etc. Parce que pour moi, pour transmettre la science, ce n'est pas seulement transmettre des faits. Vous savez, il fallait aussi une langue qui soit agréable, douce, parce que, bon, on aborde de temps en temps des sujets très rébarbatifs qui peuvent décourager le lecteur. Et donc, si le lecteur ferme le livre et s'en va, tout est perdu en quelque sorte. Et donc, il fallait que, c'est ce que j'ai essayé en tout cas dans mon œuvre, et en particulier dans le Cosmos et Lotus, c'est d'écrire dans une langue qui soit agréable à lire. Et je sentais le mieux ça dans la langue française. Vous savez, j'ai plus de vocabulaire, je sens mieux la sonorité. Et la poésie, la langue aussi. Et donc, il fallait que tout ça soit inclus dans le texte de façon à ce que l'information scientifique passe mieux. Et pour moi, la langue française me donne ça. Je n'ai pas cette capacité, certainement, en anglais. Je n'ai pas le vocabulaire de Shakespeare et sa maîtrise des sons de la langue, certainement de la langue anglaise, et non plus dans la langue vietnamienne que je parle dans la vie quotidienne, mais bon, pas de façon littéraire. Vous voyez, donc c'est ça. Et j'écris donc tous mes ouvrages dans la langue de Molière, comme monsieur l'a bien dit. Et en fait, s'il y a des ouvrages en vietnamien ou en anglais, c'est toujours des traductions que j'essaie bien sûr de contrôler. Malheureusement, ça ne marche pas tout à fait bien pour les auteurs qui sont dans les salles, qui ont été traduits. Vous savez, là, s'il n'y a pas un bon traducteur, aussi, le texte original perd beaucoup. Parce que de temps en temps, les traducteurs se contentent de traduire l'information. Mais il y a le style, tout le style que l'auteur a essayé d'injecter dans son écrit, disparaît de temps en temps. Donc j'ai eu de la chance, mais aussi de la mâchoire de temps en temps, des traducteurs, en particulier par exemple La Mélodie Secrète, mon premier livre en français qui a été un succès ici, qui m'a fait découvrir du public français ici en 89. Quand ça a été traduit en anglais, malheureusement, ça a été vraiment toute la poésie de la langue s'est complètement évanouie. C'est-à-dire, il y a l'information, vous savez, mais le style n'y est plus. Et c'est dommage. Donc, ça a raté, en quelque sorte, son entrée pour le public américain. Donc, c'est très important. Quand je vois Baudelaire qui traduit Edgar Allan Poe, je me dis, bon, vraiment, voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut faire, des talents au même niveau, vous voyez, qui peuvent traduire la pensée d'un autre. Et donc, l'amour, cet amour langue française, je l'ai toujours eu en moi. Et donc, bon, j'espère un jour m'installer à Paris, quand j'aurai plus d'enseignement à l'Université de Virginie, et continuer donc cette œuvre en français. Ça, c'est donc la transmission du savoir à vraiment maintenant un très vaste public. Mais c'est surtout dans le pays francophone, hein, je dois l'avouer, à cause de la traduction de la barrière de la langue, peut-être je suis moins connu dans le monde anglophone. Je pense que l'ouvrage qui est le plus connu, en fait, de moi dans le monde anglophone, en fait, c'est le livre avec Mathieu Ricard, L'infini dans la paume de la main, en fait. Il traite donc des relations entre bouddhisme et science. Et pour moi, c'est loin, bien sûr, d'essayer d'introduire des mysticistes dans la science, de justifier une religion par la science, parce que le bouddhisme n'a pas besoin de ça. Il a 2500 ans d'existence et ce n'est pas le fait que l'univers soit né dans un Big Bang ou que la Terre tourne sur le Soleil tourne dans la Terre qui fait une grande différence dans la philosophie basique du bouddhisme. Mais pour moi, c'était vraiment aussi une sorte d'exercice de cohérence intellectuelle. Je me disais que s'il y avait deux systèmes de pensée qui soient logiques et cohérents et qui prétendent tous les deux décrire le même réel, donc en particulier la science d'abord, et puis l'autre c'est le bouddhisme. Je me demandais toujours comment Bouddha voyait les concepts d'espace, de temps, d'origine de l'univers, quand il a atteint l'éveil il y a 2500 ans. Parce que l'éveil, par définition, c'est l'accès à la connaissance suprême. Donc c'est surtout un processus pour moi de cohérence intellectuelle, et de savoir comment est-ce que les deux sont cohérents ou non. Et donc, Monsieur Mieux a déjà souligné certaines convergences qu'on voit et qu'on retrouve tout au long de la science. Par exemple, l'un des concepts du bouddhisme, c'est bien sûr l'interdépendance, que tout est relié chez les autres. Rien ne peut exister par soi-même, rien n'a d'existence intrinsèque. Et bien sûr, l'astrophysique a redécouvert ça de manière spectaculaire. Donc, nous sommes tous des poussières d'étoiles. Vous savez, tous les atomes de nos corps, que ce soit 2%, vous avez bien tout relevé, tous les chiffres précis, ont été fabriqués par les étoiles. Dans les étoiles, nous sommes tous les poussières des étoiles, donc cousins des coquelicots des champs et frères des bêtes sauvages. Donc l'interdépendance et puis l'impermanence, tout change, tout bouge, tout évolue. Et ça, c'est bien sûr, c'est le thème même de la science du XXe siècle, bien sûr. L'univers qu'on pensait, que Aristote pensait immuable, parce que Aristote pensait par exemple que le ciel était le domaine de Dieu, et Dieu étant parfait, on ne peut pas améliorer ce qui est déjà parfait. Donc, le ciel doit toujours rester le même. Et donc, ce qu'on appelle l'immuabilité aristotélicienne, et ça a duré jusqu'à la Renaissance, 20 siècles, je pensais. Et c'est seulement à partir du 16e siècle que des gens comme Tycho Brahe ou Kepler voient des supernovas, des étoiles qui naissent comme ça à la mort d'une étoile massive. Enfin, des étoiles qui apparaissent, pas qui naissent, mais qui apparaissent dans le ciel à la mort d'une étoile, ce qu'on appelle les supernovas. Seulement à ce moment-là qu'ils admettent que le ciel peut changer. Donc le thème, vous savez, maintenant l'univers a une histoire de 13,7 milliards d'années, change, bouge tout le temps. L'univers est constante évolution et tout ce qui est dans l'univers change et bouge aussi. Tout a une vie, comme M. Pierre l'a souligné aussi, les étoiles naissent, vivent leur vie et meurent, pas sur des échelles d'une centaine d'années, mais des millions, voire des milliards d'années. Donc ça, c'est l'impermanence et ça, ça se passe aussi dans le milieu microscopique. Vous savez, vous pensez que cette table est complètement fixe. Mais si vous avez des yeux qui peuvent regarder à l'échelle atomique, vous verrez des électrons, des protons bouger. Enfin, c'est ça, les pleins de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent, d'ondes de lumière, d'ondes radio. Enfin, vous voyez, nos sens ne voient pas tout ça, mais les instruments scientifiques peuvent les détecter. Donc il y a certainement une convergence, une résonance, ce qui me réconforte beaucoup. J'ai été chariné, je pense, de voir si un des systèmes était faux. Donc voilà, vous voyez, c'était donc les grands thèmes de ma vie, de mon travail, nourri donc par cette éducation confucéenne et bouddhiste que j'ai essayé donc de retraduire dans le Cosmos Lotus par l'insistance de mon éditeur ici présent, Jean Moutapa, parce que je voulais, au début j'avais un peu peur d'être un peu nombriliste, c'est-à-dire qui est-ce qui va s'intéresser à mon parcours personnel. Mais j'essayais donc de donner à ce parcours personnel donc la petite histoire, mais dans la grande histoire de la guerre du Vietnam, de la guerre indochinoise, etc. aussi, et aussi des thèmes ils sont universels, qui résonnent dans chacun de nous, êtres humains sur cette terre. Voilà, alors je voudrais encore remercier donc le président, les membres du jury, de m'avoir décerné ce prix prestigieux, et bien sûr, Madame Elina Pors, de l'avoir dotée. Merci.
Nous vous invitons à écouter ou réécouter une précédente émission avec Trinh Sang Thuan sur Canal Académie, ce recueilleur de lumière, comme il s'appelle, passeur de savoir, sera dès la rentrée de septembre 2012 sur les ondes de Canal Académie dans une toute nouvelle émission consacrée à l'ensemble de son œuvre.